Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu,
que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et donc c'est Micro-ondes qui reprend les ondes ce samedi de 13h à 14h, et vous pouvez d'ailleurs nous retrouver tous les samedis de 13h à 14h. Micro-ondes, c'est donc l'émission qui relaye les luttes et qui s'attache à donner pour une fois la parole aux personnes justement qui sont dans ces luttes, qui ont des choses à revendiquer, des coups de gueule à passer. Donc bienvenue à des personnes justement qui luttent. La thématique du jour, c'est notamment les luttes lycéennes et les luttes étudiantes. Autour de nous, on a quatre super invités. Merci à vous d'être là. Donc, je vais commencer par présenter les étudiants. Salut Mickaël.
Salut.
Et salut Gabriel.
Salut.
Vous êtes à quel syndicat ?
Syndicat Solidaire Étudiant.
Solidaire Étudiant, donc sur le campus de Grenoble.
C'est ça.
Bienvenue. Et puis donc, les lycéens et lycéennes. Donc, salut Malo.
Salut.
Et salut Clémence.
Salut.
Et donc, vous êtes sur quel... vous êtes représenté quel syndicat ?
Du coup, nous, on est à l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne.
Ok. Rapprochez-vous un petit peu du micro, on ne vous entend pas très très bien avec... c'est la période Covid, c'est la période masquée, et du coup, en effet, ça ne simplifie pas les micros. Bienvenue à vous, du coup. L'idée de cette émission pour nous, c'était donc parler ensemble, justement... de ce coronavirus déjà, et puis des conséquences que ça a sur, sur les conditions d'enseignement, sur les conditions de cours. Je propose qu'on attaque justement tout de suite un peu dans le vif du sujet. Malo, Clémence, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans les lycées depuis la rentrée là ? Qu'est-ce qui a été décidé ? Comment ça se passe ? Voilà. Est-ce que vous avez envie de nous en parler ?
Alors, nous tout d'abord, le premier gros changement, ça a été l'hybridation. Tout dépend des établissements, mais des fois une semaine sur deux, des fois quelques jours par semaine et pas d'autres. Et du coup, les classes coupées en deux. Donc, les lycées étaient beaucoup moins remplis, il y avait beaucoup moins de monde. Et du coup, on pouvait voir beaucoup moins de personnes. On allait au lycée moins souvent. Il y avait beaucoup de cours à distanciel. Pas tout le monde n'arrive à les suivre. Du coup, c'est assez compliqué. Je ne sais pas, Malo, si tu veux rajouter un truc.
Oui, puis le problème qu'on a vachement remarqué, c'est que donc, suivant les établissements, ça a beaucoup changé. Donc, je prends mon exemple. Moi, du coup, au lycée des Eaux-Claires, les élèves de terminale ont repris tout en présentiel, avec des élèves de première et de seconde qui font un jour sur deux, approximativement. Mais il y a beaucoup d'autres lycées où les terminales sont toujours en mi-distanciel ou qui font que les enseignements de spécialité en présentiel.
Ok. Et sur le fait de pas... Donc, les groupes sont fixes, par exemple. C'est-à-dire que, mettons, toi, Clémence, quand votre demi-groupe, c'est toujours le même, tu ne vois plus la moitié de ta classe du tout.
C'est ça. Moi, je fais une semaine sur deux. Et du coup, oui, je vois moitié de ma classe une semaine sur deux. Et maintenant, depuis la reprise des vacances, enfin, la reprise après les vacances, je suis revenue genre juste pour les SP. Et du coup, pour les SP, on est en classe complète, donc je revois ma classe. Que pour certains cours de la semaine.
Ok. Et quelles conséquences aussi sur la qualité des cours, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de ce côté-là ?
Et notamment, si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux dans l'année du bac, ça a des conséquences quand même particulières ?
Alors, pour la qualité des cours, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas déjà tous la même approche par rapport aux cours. Il y en a qui ont une mémoire auditive, d'autres qui préfèrent visuellement. Donc je sais que notamment pour ceux qui ont des mémoires auditives et qui n'ont pas de cours en visio, qui ont juste des papiers qu'on leur envoie, c'est beaucoup plus compliqué, donc beaucoup plus dur de comprendre. Et du coup, ça entraîne du coup des décrochages scolaires, surtout dans certaines matières. Et oui, pour le bac, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a les informations aussi au jour le jour, ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va faire. Et on a des informations, vraiment, ça change toutes les semaines. Limite, on nous donne de nouvelles informations, des choses qui changent. Donc, c'est dur à préparer.
Pareil, je vais prendre mon exemple personnel. Nous, on vient d'apprendre qu'on a un bac blanc. On a appris la semaine dernière qu'on aura un bac blanc dans deux semaines. Donc, il y a vraiment des informations qui circulent peu. Qui plus est, il y a une impréhension parce que c'est les vraies épreuves du bac ont été supprimées. Du coup, qui passent en... en sur du contrôle continu. Et là, on se retrouve avec un bac blanc qui seront dans les mêmes conditions du bac, sur à peu près les mêmes dates. Donc, on ne voit pas trop la logique.
Mais le bac, les modalités, on les connaît déjà ou bien elles sont encore susceptibles de changer? Enfin, vous savez comment ça va se passer?
C'est susceptible de changer, même ça va probablement changer de ce qu'on sait actuellement. Les épreuves qui sont maintenues pour le moment, on ne sait même pas si elles vont être maintenues jusqu'au bout. Et on a notamment un grand oral, ça va avec notre réforme du bac. Et le grand oral, ça change un peu tout le temps. On doit préparer des sujets, après savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les sujets. C'est assez compliqué de savoir. Et du coup, c'est compliqué à préparer.
Et cette organisation, est-ce qu'elle est nationale, assez unifiée, ou est-ce que chaque proviseur, chaque direction d'établissement s'arrange à sa façon?
Nous, ce qu'on critique beaucoup à notre ministre, du coup, Blanquer, c'est de ne pas avoir vraiment pris sur les responsabilités. Et en fait, il les rejette sur les chefs d'établissement. Donc, c'est les chefs d'établissement qui choisissent s'ils suivent les directives ministérielles ou pas du tout, est-ce qu'ils les gardent, etc. Donc, la dernière directive qui était passée mi-janvier, c'était d'arrêter de faire du distanciel pour les enseignements de spécialité et que tout se fasse en présentiel. Sauf que tous les lycées ne sont pas obligés de les suivre, du coup tous les lycées ne les suivent pas. Donc ça a créé des grandes disparités entre les établissements.
Et j'avais encore une question sur la question des moyens qui sont mis justement pour le distanciel, c'est-à-dire est-ce que du matériel informatique a été donné aux étudiants, etc. ou bien c'est chacun, enfin je dis étudiant, pardon, lycéen, mais est-ce que c'est chacune qui se débrouille avec ce qu'il a, ou est-ce qu'il y a eu justement des moyens qui ont été mis en place pour la connexion Internet, pour des ordinateurs, pour voilà, des outils pour suivre les cours à distance?
Alors justement, c'est une critique qu'on a beaucoup fait, notamment en mars de l'année dernière, parce qu'on nous a annoncé le confinement donc le jeudi, le lundi on n'avait plus cours, et le lundi commençaient les enseignements à distanciel. Et on était beaucoup dans le cas, c'était notamment mon cas, où on n'avait pas d'ordinateur, pas de connexion forcément bonne à Internet, assez bonne pour pouvoir faire des visios, parce qu'il faut quand même une bonne connexion pour pouvoir suivre correctement. Et je sais que la FCPE notamment est en train, nous, dans notre lycée, d'essayer d'acheter des ordinateurs portables pour nous les mettre à disposition, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ils essayent, mais il y a quand même un manque de moyens dans la plupart des établissements. Et l'initiative, donc elle vient de la FCPE, elle ne vient pas de l'établissement. Et du coup, vraiment, il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis. Ils essayent, mais il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis, et c'est ce qu'on reproche notamment.
Et du côté des enseignants, est-ce que vous avez, il y a un impact particulier du Covid, ou est-ce que la crise qui existait déjà avant en est au même point?
C'est une question plutôt compliquée. Effectivement, il y a pas mal de nos enseignants qui peuvent pas venir en cours parce qu'ils sont cas sensibles, etc., ou cas contact. Il y avait une étude qui était passée aussi qui montre que si le professeur est atteint du coronavirus, ça répand le coronavirus très vite en l'espace de 2 heures. Mais du coup, moi, j'ai plus du tout d'enseignement d'espagnol, sauf en distanciel, parce que ma professeure est un cas susceptible de développer une forme grave.
Oui, du coup, il y a beaucoup de lycéens et de lycéennes qui manquent des cours par rapport à ça, parce que Malo, il peut encore en faire en distanciel, mais il y en a qui ont attrapé le Covid et qui ne peuvent plus du tout faire leurs cours. Donc, il y en a qui ratent. Moi, j'ai raté un mois et demi d'anglais parce que ma prof était à l'hôpital, justement. Il y en a beaucoup qui ratent des cours. Et aussi, les profs, ils ont autant d'informations que nous. Ils n'en ont pas beaucoup. Ça arrive très peu au compte-gouttes. Et du coup, ça a tendance à les stresser. Du coup, le stress, il est assez communicatif. Et nous-mêmes, du coup, on est stressés. Enfin, vraiment, on sent que c'est tendu aussi du côté des étudiants, des professeurs. Et du coup, ça a des conséquences sur les lycéens et les lycéennes.
Vous n'avez pas le même ministre, mais je crois que vous avez un peu le même problème pour les personnes étudiantes. Est-ce que vous voulez nous parler justement un regard un peu global sur comment ça se passe, cette rentrée sous coronavirus, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, etc.
À la fac.
À l'université, oui.
Bah, y a plein de choses qui marchent assez mal à la fac en ce moment, enfin qui ont été aggravées par la crise du coronavirus. Voilà, une grande part des étudiants qui ont peu accès au numérique et qui du coup suivent parfois les cours avec leur tablette ou leur téléphone. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est également les manques de moyens des professeurs. Je pense notamment aux grosses promotions en psychologie, etc., qui doivent suivre les cours à 200 parfois. Voilà, et à distanciel, ça devient quasiment impossible, par exemple, de répondre aux questions ou pour un prof de s'assurer que tout le monde ait compris ou tout simplement de veiller à ce que les personnes suivent les cours et ne décrochent pas et finissent par se décourager, etc.
Voilà, en fait, pour rajouter quelque chose vis-à-vis de ce qu'a dit Gabriel, il faut savoir que nous, à la fac, on a une jauge maximum de 20% de remplissage des amphis. Et il y a un accent qui a été mis, c'est normal, hein, sur les premières années, qui débarquent et qui ont connu déjà un bac compliqué et du coup, qui n'ont pas pu s'adapter à ce qu'est la fac réellement, ce qui a provoqué beaucoup de décrochage pendant le premier confinement. Donc du coup, l'accent a été mis sur les premières années. Mais si on fait le bilan de tous les suicides qu'il y a eu, et parce qu'il y en a beaucoup à Lyon, à Paris, à Saint-Étienne et partout, c'est surtout c'est pas des premières années. En fait, c'est des deuxièmes années, des troisièmes années et des gens en master. Donc il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que nous, on demande un retour le plus possible en présentiel avec des moyens. Faut pas négliger cette réalité-là. Et on partage la même observation avec les lycéens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens mis dans la fac ou dans les lycées pour faire face à ce virus avec lequel on sera obligé, il faut bien l'avouer, de vivre encore longtemps.
Et vous avez parlé à l'instant du suicide. Est-ce que, sans aller jusque-là, il n'y a quand même pas des questionnements, des problèmes psychologiques chez les étudiants qui arrivent quand même à la fac et qui essaient de continuer leurs études tant bien que mal?
Ah oui, bah le problème psychologique, on peut le résumer en un chiffre notamment, si je le retrouve dans mes papiers. Voilà, donc c'est à la fac, dans les centres de santé en France, il y a en moyenne un psychologue pour 30 000 étudiants. C'est le monde du 16 novembre dernier. Et notamment, par exemple, à Grenoble, les rendez-vous se font à distance. On a notamment eu un cas personnalisé qu'on a dû à traiter avec notre syndicat, où une étudiante, on n'en pouvait plus, elle décrochait complètement, elle avait besoin d'un psychologue, et c'est surtout parce qu'elle manquait de contact, et on lui a proposé un rendez-vous à distance. Voilà, du coup, ça ne résolvait pas du tout ses problèmes, et ça, c'est ce genre de choses, c'est généralisé, notamment dans les résidences étudiantes, où les étudiants ont très peu de contacts sociaux. Voilà, certes, les premières années, par exemple, ne connaissent pas bien leurs camarades de classe. Ils les ont vus à peine 2 semaines avant le confinement. Donc oui, les contacts sociaux, c'est ce qui pêche le plus et ce qui dégrade le plus la santé mentale des étudiants et des étudiantes.
Au niveau de l'accompagnement psychologique dans les lycées, est-ce que vous savez si justement il y a eu, non seulement s'il y a des moyens en place de manière ordinaire, mais est-ce qu'il y a eu aussi des choses qui se sont renforcées par rapport à ce contexte particulier ou rien du tout?
Alors, je ne suis pas sûre que dans tous les établissements, il y ait accès. Nous, je sais que c'est l'infirmière qui s'en charge dans notre établissement. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réelle démarche des lycéens et des lycéennes pour aller voir l'infirmière. On n'a pas posé le cadre en début d'année en disant « Si vous avez des problèmes, allez voir l'infirmière, elle pourra vous aider. » Et mentalement, c'est difficile parce que nous aussi, on est en distanciel. On n'a pas vu personne pendant plusieurs mois et tout ça, à part notre famille. C'est beaucoup moins présent que chez les étudiants et les étudiantes parce que nous, on a eu la chance de pouvoir faire en hybridation pendant un certain temps. Et c'est vrai que les moyens mis à disposition sont encore une fois très faibles. Il y en a, mais très peu, et ils ne sont pas toujours très efficaces.
Ok, mais c'est un petit peu moins un besoin de ce que tu dis que chez les étudiants, quoi. En effet, les gens sont laissés seuls. Michael, t'as envie de rajouter quelque chose ?
Oui, en fait, il faut savoir qu'actuellement, les cours en fait, sont, comme je le disais, ouverts à 20%, mais c'est sur la base du volontariat. Et du coup, il faut, bien sûr, pour avoir accès à ces cours, il faut pouvoir habiter et pouvoir se nourrir sur le campus de Grenoble, ce qui va amener plein d'autres soucis. qu'on aura l'occasion de détailler plus tard. Mais voilà.
Et j'imagine que ce problème est encore plus grave pour les premières années. Vous n'êtes pas en première année, je crois en troisième, quatrième, mais pour les premières années où il y a tout à mettre en place, tout à comprendre, les fonctionnements, la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment ça se passe pour eux ?
Ce qui se passe pour eux, c'est que ils n'ont pas, au début de l'année, c'était le même régime pour tout le monde, c'est-à-dire tu fais des cours à distance avec par Zoom, avec un prof qui parle à une caméra, et du coup, tu restes chez toi, dans ton appartement, et tu passes des fois 18 heures face à ton ordi, sans même certains se disaient carrément qu'ils sortaient pas de leur lit. Donc voilà, enfin, ça pose ce genre de problème-là.
Voilà. Et puis.
Merci Gabriel.
Et dans les dernières nouvelles que j'ai eues de mes enseignants qui ont aussi des premières années, il y en a beaucoup qui ont décroché déjà. Du coup, en sciences du langage, on est 65 en première année. Et il y en a déjà une bonne vingtaine qui ont décroché.
Est-ce que tu penses que c'est un taux justement c'est quelque chose qui est aggravé depuis la mise en place des cours en distanciel, etc.
Quand j'étais en première année, il y avait 4 ou 5 personnes qui avaient décroché peut-être 4 ou 5 autres qui avaient changé de formation, puisque les sciences du langage, c'est très interdisciplinaire, donc on change beaucoup de filières en cours d'année. Mais oui, là, c'est beaucoup aggravé, puisque les 15-20 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils n'ont pas changé de filière, on les a perdus. On n'a plus de nouvelles.
Sachant que, je le répète, les premières années actuelles ont déjà eu un bac qui a dû être modifié, et du coup, ils n'ont plus le même rythme, et ils ne savent pas, le temps d'adaptation est presque à zéro, donc voilà, ce qui explique aussi plein de décrochages par rapport à une vie étudiante qui change complètement par rapport à ce qu'on nous demande au lycée. C'est à la fac qu'on a beaucoup plus d'exigences et on travaille beaucoup plus seul. Il faut plus s'autodiscipliner. Et dans un contexte où tu es chez toi du soir au matin devant ton ordi, c'est très difficile. Voilà.
Tu as commencé, Mickaël, tout à l'heure à aborder un peu plus ou moins les difficultés financières, etc. La question de la précarité. Et en effet, je me dis, c'est un moment où forcément, donc certains étudiants, s'ils veulent avoir accès à des cours en présentiel, sont contraints quand même de rester proche de l'université, sur le campus, etc., de manger dans les environs. Aujourd'hui, je dirais que l'accès à tous les jobs étudiants, le service, la restauration, les saisons, etc., tout ça est rendu compliqué. Est-ce que vous avez justement des informations un peu sur les difficultés financières des étudiants cette année ?
Clairement, quand nous, on fait des porte-à-porte toutes les semaines, moi, clairement, je vais vous raconter un truc qui m'a sidéré, c'est que faut savoir que déjà, les étudiants qui restent dans les résidences étudiantes aujourd'hui, c'est presque exclusivement des étudiants étrangers qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et du coup, pour travailler, pour pouvoir vivre, il faut savoir que 46% des étudiants actuellement sont obligés de travailler à côté de leurs études, et ça, c'est plus possible. Et en fait, les étudiants qui perdent leur travail, du coup, ça entraîne plein d'autres problèmes. Ça entraîne des difficultés pour payer les loyers, pour se nourrir correctement. Et du coup, on n'a plus... La petite vie sociale qu'on pourrait avoir quand même, parce qu'on est quand même libre de sortir à certains moments, mais même ça, ce n'est plus possible, en fait.
Financièrement, tu veux dire,
c'est plus financièrement, ce n'est plus possible.
Voilà. Vas-y, Gabriel.
Oui, je voulais aussi rajouter que le CROUS de Grenoble a supprimé une centaine d'emplois étudiants quand il y a eu la fermeture des restaurants universitaires. Donc, c'est des étudiants qui travaillaient à la plonge, au service, etc. Et leur contrat s'étant terminé, on ne les a pas renouvelés et ils se sont retrouvés à la rue. Et à ce propos, je fais de la pub pour les agents du CROUS qui sont actuellement en révolte, puisqu'on la direction profite du Covid pour changer leurs horaires un peu comme ils veulent. Ils ont été en grève au début de l'année et ils demandent notamment la réembauche de ces étudiants. Voilà, la direction a profité, ça a fait 500 000 euros d'économie en tout pour sur le dos des emplois étudiants.
Ok, donc non seulement il n'y a pas de dispositif d'aide exceptionnel, mais en plus, on va dire qu'ils accentuent le naufrage, quoi. Vas-y, nickel.
Oui, pour compléter encore une fois, en fait, le CROUS est aussi responsable de la, donc, comme tu le disais, Baptiste, l'aggravation de la situation des étudiants. Parce que, en fait, qui dit que les vacataires ont été renvoyés chez eux, dit des titulaires, des agents du CROUS titulaires qui sont de fait surdébordés parce qu'ils ont plus de tâches à faire, ce qui fait qu'ils ont moins de présence auprès des étudiants dans les résidences, et du coup ça accentue la possibilité que, oui, malheureusement, il y en ait qui, pour parler un peu choc, se foutent en l'air littéralement, quoi.
Avec tout ça, je vous pose un peu la question, lycéen, lycéenne, comme étudiant, comment vous voyez, entre guillemets, cet avenir? Et surtout, je ne sais pas, est-ce que vous avez cette impression d'être à un moment une génération sacrifiée, ou en tout cas une génération qu'on néglige un peu dans cette période? Voilà. Est-ce que vous vous sentez de prendre la parole sur cette question?
Alors, pour les lycéens et lycéennes, je pense déjà, pour commencer, c'est compliqué de se voir l'avenir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a les informations au jour le jour. Donc, ce qui est déjà très proche pour nous, c'est le bac, la prochaine étape. On n'a rien, ça change souvent et tout ça. Donc c'est compliqué de voir après le bac, sachant déjà qu'on n'arrive pas à voir jusqu'au bac. Et donc c'est vrai qu'on est totalement en flou et on avance dans l'inconnu. Et encore une fois, ça augmente déjà le stress. Et c'est sûr que on est un peu une génération sacrifiée dans le sens où rien n'est mis en place, mais il y a un manque de moyens qui est mis en place pour nous aider justement à avancer et à y voir plus clair dans qu'est-ce qu'on va faire après, comment on va aborder la suite. Et comme ils l'ont dit, on n'aura peut-être pas nous non plus du coup de temps d'adaptation entre le lycée et les études supérieures, ce qui peut nous perdre dès le début et nous empêcher de faire nos études comme on aurait pu les faire avant normalement, ou du moins mieux que dans cette situation.
Après, je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a une peur qui peut grandir chez les étudiants et étudiantes et aussi chez les lycéens et lycéennes. Celle de la première année, il va y avoir du coup cette année bien plus de redoublants de première année que les années précédentes. Et on va avoir un bac qui va être facilité, on ne va pas se mentir, comme l'année dernière à cause du Covid. Donc plus de personnes qui vont passer étudiants, étudiantes. Et du coup, on va avoir très clairement, je pense, des amphis de L1 qui vont être surchargés. Et il faut avoir cette conscience. Et en vrai, il faut vraiment que des moyens soient mis pour assurer des...
Et la réponse à la surcharge risque d'être le distanciel. Enfin, j'ai l'impression aussi qu'on profite là de cette période exceptionnelle pour mettre en place des conditions d'enseignement à distance, quoi, a priori.
Et sans parler en plus du choix de la filière qui va être probablement encore plus restrictif, plus difficile, j'imagine.
Alors oui, notamment du fait qu'il y a beaucoup de portes ouvertes qui ont été annulées. Nous, avant, je sais que dans mon établissement, et c'est le cas dans beaucoup d'établissements, il y a des anciens lycéens et lycéennes qui viennent présenter leur filière, qui viennent dire comment ça se passe, présenter leur vie étudiante et tout ça. Et là, ça a été annulé avec le Covid. Et du coup, avec l'UNL, on essaie d'y remédier en organisant des rencontres entre lycéens, lycéennes et étudiants, étudiantes. Mais c'est toujours plus compliqué parce que on ne peut pas aller voir de nous-mêmes, notamment les écoles. On ne peut pas aller voir comment ça se passe. On ne peut pas rencontrer des professeurs de ces écoles qui pourront nous donner des conseils. Vraiment, c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que, Gabriel, Michael, vous avez envie de me dire un petit mot avant une petite pause musicale?
Je pense surtout qu'on est une génération sacrifiée. Et d'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit. La société vous le rendra. Personnellement, j'y crois pas trop. Il faut.
Est-ce qu'on va vous applaudir comme les médecins, peut-être?
Voilà, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que on est peut-être une génération sacrifiée, mais c'est pas une fatalité. Il faut, je pense, recréer une culture de la résistance, se réinvestir dans les syndicats, dans les mouvements de lutte, et créer l'université de nos rêves, une université ouverte à toutes et à tous. Etc, etc. Il faut qu'on remette la résistance dans notre cœur, de notre culture.
Okay. Oui, d'autant plus que par rapport à l'anxiété, par rapport à l'avenir, il n'y a pas que les étudiants ni les lycéens qui sont concernés, c'est toute la société. Mais nous, moi je vais parler de mon cas, je termine mon cursus universitaire cette année, et pour trouver du boulot, il n'y a pas de travail tout le monde te dit, oui, aujourd'hui, on n'a pas, on travaille pas, quoi. Il n'y a pas de travail nulle part. Il y a des services qui ferment, voilà. Et en fait, ça fait des années que ça dure. Mais là, c'est encore une fois, c'est accentué par le Covid. Voilà, l'avenir pour nous, moi, je ne sais pas encore clairement ce que je vais faire l'année prochaine. Donc, ça rajoute de l'anxiété.
Et le pis-aller qui sont des revenus de chômage ou de RSA, ne vous sont pas accessibles ni l'un ni l'autre.
Non, alors justement, par rapport au RSA, nous, une de nos revendications à Solidaires étudiants, c'est permettre aux jeunes dès 18 ans d'avoir accès à un revenu de solidarité active. Mais face à ça, vous avez, mais je vais dénoncer, Monsieur le maire, hein, qui est ministre de l'économie, qui dit « je ne suis pas favorable à ce que les jeunes en bénéficient parce que il faut qu'ils apprennent le travail ». Ça prouve encore une fois la totale déconnexion de certains qui sont pourtant censés être au pouvoir. Voilà, on ne veut pas toucher le RSA parce qu'on est des glandeurs qui veulent rien foutre, pour parler trivialement, mais on veut toucher le RSA parce qu'il y en a certains d'entre nous qui sont dans la galère.
Ouais, ils n'ont pas le choix, oui. On s'écoute une petite chanson, c'est donc Renaud, étudiant Paul Audan, vous vouliez nous en parler?
Oui, alors du coup c'est moi qui ai choisi cette chanson parce que je trouve, c'est en lien avec la problématique actuelle, c'est que... une frange de la population et notamment des étudiants qui, comme dans la chanson, revendiquent une société meilleure, puisque actuellement il y a quand même beaucoup de choses à améliorer et du coup voilà, voilà. Puis c'est aussi parce que moi je suis de la vieille école, du coup ça fait plaisir.
Allez, on s'écoute ça, on se retrouve juste après. C'est Micro-Ondes sur Radio Campus Grenoble, le 90.8 FM.
Donneuse et militants pour une société meilleure, dont ils seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, les bureaucrates et les marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas de ton clan, pas de ta race, mais je sais que le coup de pied au cul, que ce filo bourgeois qui passe, il vient de l'école de la rue, et il salit ma godasse. Maman, quand je serai grand, tu voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça, j'en veux bien. Étudiant en architecture, dans mon carton à dessin, y'a l'angoisse de notre futur, y'a la société de demain. Fais-les-nous voir tes projets, la couleur de ton béton, tes HLM sophistiqués, on n'en veut pas, nous, nos maisons. On se les construira nous-mêmes, sur les ruines de tes illusions. On prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça ne fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Ben alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. Étudiant en médecine, tu vas marner pendant 7 ans pour être marchand de pénicilline. Des saloperies de médicaments. Aux bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras. Et aux prolos des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Et le tiers monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas, malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté. La médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas, moi, poète. Y'a plus de facho dans ton bastion que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire être du con. Demain c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer tes lois que jamais on a votées. Tu finis juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Puis si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Ben alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, infirmière. Étudiant que dalle, tu glandes dans les facultés. T'as jamais lu le Capital, mais il y a longtemps que ça figeait. Il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait gerber, on veut pas finir l'oufia. Au service de cet état, de cette société ruinée, des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras un moins que rien. Ah oui, ça, je veux bien.
Et c'est toujours Micro-Ondes qui reprend les ondes de Radio Campus, le 90.8. On a dû couper la chanson, on court après le temps malheureusement. Et du coup, il nous reste plus en effet plus qu'une dizaine de minutes pour aborder deux sujets d'actualité qui nous paraissaient importants. Je laisse la parole aux camarades de Solidaires étudiants pour nous parler déjà de, voilà, de cette loi aujourd'hui qui tente de museler la recherche et les étudiants, en quelques mots.
D'accord. Alors, du coup, pour remettre les choses au point, c'est la loi de programmation de la recherche. En fait, dans cette loi, il est très clairement stipulé que maintenant, tout ce qui attentera au bon déroulement des cours, entre guillemets, clairement, hein, si vous occupez un bâtiment, si vous bloquez un bâtiment, ou même si vous faites une AG, vous êtes passible. Si vous le faites tout seul, de 3000 euros d'amende. Et si c'est en réunion, c'est 7500 euros d'amende et 3 ans de prison. Voilà. Ça, en fait, ça pose problème, puisque ça signe clairement la fin du syndicalisme étudiant. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus faire d'AG étudiante, même plus faire de blocage pour revendiquer nos droits, hein, puisque faut rappeler que les étudiants, on n'a pas le droit de grève, malheureusement. Donc du coup, le blocage, ça peut être un des seuls moyens qu'on a de se faire entendre. Et ça, ça pose problème. On ne pourra même plus faire d'intervention en amphi pendant les cours pour expliquer aux étudiants les recours qu'ils peuvent avoir, ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement et ce qui pourrait les concerner. Donc c'est très grave.
Et sur la question vraiment de la recherche, notamment avec l'idée d'interdire, si je comprends bien, des recherches sur trop orientées, entre guillemets, politiquement, enfin, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, qui ne correspondent pas à la conception que se fait le gouvernement de, je ne sais plus ce qu'il dit...
De la République, non ?
De la République,
des voilà. Valeurs républicaines.
Ouais. En fait, toujours pour remettre un peu dans le contexte, depuis que Mme Vidal a fait son intervention devant le Sénat pour dire que apparemment la fac française serait un nid d'islamo-gauchistes, hein, c'est pour reprendre ces termes, j'ai envie de vous dire, si vous pensez que actuellement le problème principal dans les universités, avec tout ce qu'on a pu dire auparavant et tout ce qu'on pourra dire après, sans vouloir donner de crédit à quelqu'un dont on entend parler souvent à cause de ses enduits judiciaires, j'ai envie de vous dire, mais quelle indignité si vous pensez ça, quoi. Encore une fois, c'est la preuve qu'aux manettes, il y a une déconnexion totale de ce qui se passe. Et en fait, s'il y a de l'islamo-gauchisme, comme elles le disent, déjà on peut revenir sur le terme islamo. Alors moi, gauchiste, tant que vous voulez, hein. J'assume, hein. Mais avec ma tête de punk, je pense pas être. Clairement là-dessus, moi je suis au clair. Mais au fait, l'université, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu où on invente des concepts, donc c'est un milieu de réflexion. Et si on veut inventer une nouvelle société, c'est parce que la société actuelle, elle ne va pas. Donc pourquoi, au lieu de dire il y a de l'islamo-gauchisme, il ferait mieux de se dire. Pourquoi il y a de l'islamo-gauchisme et pourquoi il y a des gens qui essayent de changer la société qui ne nous va pas aujourd'hui ?
Ouais, on est clairement en effet dans l'idée de détourner l'attention de problèmes sociaux que vivent les lycéens, les étudiants, parce que ça coûte moins cher de taper sur les islamo-gauchistes que de mettre en place de vrais moyens pour les étudiants. Quoi.
Encore faudrait-il qu'on sache ce que ça veut dire.
Voilà, parce que si je peux rajouter, en fait, c'est quoi ce terme ? C'est un terme tiroir pour mettre tout ce qui ne convient pas au pouvoir actuel et à d'autres forces plus à droite. Mais en fait, c'est un terme tiroir qui ne veut rien dire. C'est un truc qui est vide de sens. Si clairement, je veux dire, si pour vous, moi, je suis un islamo-gauchiste, pour moi, eux... Ce sont des capitalos de retard. Voilà, je peux lancer un concept là aussi, moi aussi.
Et c'est parti.
Gratuit, quoi. Voilà.
Voilà, adopté.
Le mot est lancé. Le temps tourne, malheureusement on ne peut pas continuer longtemps le débat sur cette question, mais par contre j'avais envie de vous lancer justement sur autre chose et de savoir éventuellement si des solutions sont en train d'être cherchées ou trouvées par rapport à la question du sexisme à l'université. Ça a été lancé du coup par notamment à Grenoble par le hashtag Sciences Po, mais je vois qu'aujourd'hui il y avait une manifestation contre le sexisme dans les universités. On peut commencer par parler de la situation dans les universités, après je vous questionnerai sur les lycées.
Oui, ce qu'on voit, c'est la même chose que partout, c'est la loi du silence. On essaye de faire taire les victimes, notamment les profs qui sont sur la scène internationale. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de polémique, mais il faut ouvrir la parole. Et surtout, il faut que les profs qui sont accusés arrêtent d'enseigner. On ne peut pas avoir une victime et un bourreau dans la même salle de classe. Ce n'est pas possible. Donc il faut absolument reprendre la parole et surtout manifester, casser les pieds de l'institution jusqu'à ce qu'il cède. Voilà, je voulais dire, on a une excellente chargée de mission qui s'appelle Sophie Louargan, qui fait un excellent travail sur ces questions-là, et n'hésitez pas à la contacter, elle ou un syndicat étudiant, si vous avez besoin d'aide.
Donc comment on la contacte justement, et voilà, pour quelle raison on la contacterait?
Oui, du coup on peut la contacter par ses mails universitaires, donc avec Sophie Louargan. Enfin, vous tapez ça et puis vous tapez unif-grenoble-help, etc. Vous allez trouver son mail et on peut la contacter. Si on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on a été agressé, on ne sait pas quoi faire, on peut la contacter. Elle saura vous aider. Elle fait un travail assez remarquable avec les peu de moyens qu'elle a.
Super. Dans les lycées, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous constatez des situations de sexisme? Et surtout, quelle est la position de l'institution face à ces questions? Voilà.
Alors, nous, ce qu'on a pu constater, notamment en début d'année, il y a eu un mouvement du 14 septembre qui a été fait justement contre ces discriminations de genre. C'est en fait, donc pour ceux qui ne savent pas, le 14 septembre, c'est toutes les filles ou même tout le monde, en fait, pouvait venir en jupe ou avec des crop tops ou avec des tenues jugées par les établissements indécentes. Et il y a eu de suite et avant ce mouvement, il y a eu beaucoup de remarques déplacées, des sifflements, on le remarque dans les rues notamment et au lycée, alors que le lycée est censé être un lieu d'émancipation justement et d'apprentissage et on vit en société, donc on est censé pouvoir porter ce qu'on veut dans la mesure où on est dans un établissement. Mais il n'est pas censé y avoir... En plus, on est dans un contexte sanitaire compliqué et on s'arrête sur des questions telles qu'un décolleté un peu trop plongeant, un t-shirt qui s'arrête un peu trop, alors que il y a beaucoup plus de questions qui se posent, beaucoup plus de sujets plus importants et plus essentiels au moment même que de savoir si la jupe est un centimètre trop haut ou pas par rapport au genou. Et puis, même, on a remarqué que certains professeurs faisaient des fois des remarques déplacées à des filles, que ce soit par rapport aux tenues ou juste en parlant comme ça face à la classe. Et c'est des comportements qui ne sont plus censés aujourd'hui être dans le langage courant ou dans un établissement encore moins. Et il faudrait que ça change parce que c'est quelque chose de très important. Il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à la même éducation, à avoir les mêmes moyens et ne pas être arrêté devant l'établissement parce qu'on n'est pas habillé pareil, parce qu'on n'est pas, on est différent. Et puis, ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi toutes les personnes qui sont n'importe quel genre, qui ne se conforment pas en fait à la norme qu'on veut d'eux ou d'elles. Et c'est quelque chose de très... présent, notamment dans les lycées aujourd'hui.
Mickaël, tu voulais rebondir sur les universités?
Oui, en fait, non, mais plus sur ce que Clémence a dit. En fait, tout ça, c'est comme l'islamo-gauchisme, c'est des sujets qui évitent de parler de ce qui fait vraiment mal. On fait diversion avec ce genre de sujet-là, et c'est très, 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 très néfaste.
C'est-à-dire, parce que pour le coup, il s'agit quand même d'un vrai sujet potentiel, de personnes qui sont victimes de... Où est la diversion?
En fait, la diversion, c'est qu'on dit, regardez, les demoiselles s'habillent un peu court. Enfin, on est dans un pays libre, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de nudité affichée, il y a quand même, comme elle le disait, des sujets plus importants que ça. Moi, je suis choqué, encore une fois, des diversions qui sont faites par ce type de sujet-là.
Oui, et puis en effet, c'est une manière Oui, de justifier, enfin ouais, c'est un témoignage de plus du sexisme. Moi, sur la journée du 14 septembre, j'étais halluciné des propos des proviseurs ou de certains professeurs sur le sujet, quoi.
Et vas-y. C'est justement pour essayer d'y remédier qu'on l'UNL place en numéro 1 l'inclusivité et prône l'inclusivité. C'est quelque chose sur lequel on est axé et on essaie de mener, on a notamment des commissions qui servent à ça ou des zones de parole, d'échange, parce que c'est quelque chose qu'on veut changer et qu'on va essayer de mettre les moyens pour que ça change et pour que tout le monde puisse étudier avec les mêmes chances de réussite.
Ok. Un dernier petit mot, vas-y Malo.
Qui plus est, au-delà du sexisme dans les lycées, ça concerne aussi la transphobie. Et on voit qu'il y a un vrai décalage en fait, envers le progressisme ambiant des lycéens, lycéennes et l'administration, parce que les problèmes de sexisme et notamment de transphobie ne viennent pas forcément des lycéens, lycéennes. Ça vient aussi, mais beaucoup moins.
Ok. Michael, Gabriel, est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot avant que malheureusement on termine ce sujet?
Oui, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est vous préciser encore une fois nos revendications pour obtenir la réouverture au plus vite des universités pour tous et pour toutes et tous, parce qu'encore une fois, la situation est dramatique. Nous, ce qu'on veut, c'est, je le disais, du gel hydroalcoolique gratuit devant les universités. On veut des masques gratuits à disposition de toutes et tous. On veut des moyens, notamment en matière de personnel, embaucher des profs en plus parce que c'est plus possible d'avoir des amphis bourrés dans ces conditions-là. On veut plus de moyens financiers avec un rehaussement des bourses et pourquoi pas, donc je disais, le revenu de solidarité active pour les étudiants et pourquoi pas mettre en place une indemnité ou un salaire étudiant, comme vous voulez l'appeler. Mais il faut vraiment maintenant apporter des moyens vite, vite, vite. C'est urgent et c'est maintenant qu'on va le faire parce que, encore une fois, nous, on ne se laissera pas considérer comme une génération sacrifiée. C'est impossible.
Ok. Et du coup, on termine sur cet appel à l'aide pour les étudiants. Malo, Clémence, est-ce que vous avez un dernier petit mot pour les lycées, la situation des lycées?
Je me reprends du micro. Les dernières choses qu'on a, c'est actuellement, en Isère, il y a une nouvelle distribution une dotation horaire, donc c'est les heures qui sont séparées entre les lycées de cours en présentiel des professeurs. Et du coup, ça fait 3-4 ans que chaque lycée perd à leur tour des heures. Le lycée d'Auclair, en 2 ans, on a perdu 100 heures et cette année, ça va être 75 heures de moins de cours. C'est 75 heures qui doivent être trouvées à des endroits. Donc ça peut être trouvé en réduisant les groupes classes, en mettant plus de personnes dans les groupes de langue par exemple, ce qui diminue la qualité de l'enseignement, entre autres. Ça peut être trouvé en supprimant des heures d'éducation morale et civique. Et au bout d'un moment, ça vient de coupes budgétaires et il faut que ça s'arrête parce que on l'a très bien vu lors de la crise du Covid avec des groupes qui étaient plus petits. La qualité de l'enseignement est bien meilleure quand les classes sont plus... sont moins nombreuses en fait.
Sont aérées. Ok, merci beaucoup pour avoir pris du temps avec nous. Merci d'avoir été là.
Merci.
Comme on est à l'avant-veille du 8 mars, je propose qu'on enchaîne tout de suite sur ce deuxième petit sujet dont on voulait parler à la micro-ondes. Et on s'écoute du coup tout de suite un montage d'une manifestation justement qui avait lieu en septembre, qui était organisée par nous toutes à Grenoble. Et ensuite, on écoutera l'appel justement de cette manifestation du 8 mars. C'est donc toujours micro-ondes sur Radio Campus, le 90.8 FM. C'est parti.
Le 10 octobre 2020, la Manif pour tous lançait une nouvelle offensive contre les droits des femmes et des minorisés de genre. Sous le nom Marchons Enfants, elle appelait à des rassemblements pour manifester, notamment contre l'accès à la PMA pour tous, partout en France. Face à ce déferlement de discours haineux, des contre-manifestations étaient organisées un peu partout en France, y compris à Grenoble, à l'appel de nombreuses associations féministes et LGBTI. Micro-ondes y était et à l'approche du 8 mars, on avait envie de revenir sur ce moment où nous étions là en nombre pour lutter pour nos droits et pour faire barrage au discours nauséabond de la Manif pour tous. Alors nous vous proposons un petit reportage sur cette manifestation. Bonne écoute.
Alors je suis là, je viens de rejoindre le cortège et je suis là, pas forcément parce que j'ai envie de faire des enfants, j'en veux pas personnellement, mais je trouve ça hyper important que les potes qui sont lesbiennes, trans ou PD puissent faire des gosses s'ils en veulent, et même aussi les copines hétérosexuelles, j'ai envie qu'elles puissent le faire dans la manière dont elles en ont envie, y compris sans homme, sans père. Et si j'ai vraiment un truc à dire aux gens qui sont là-bas en face sur la place Verdun, c'est qu'on veut leurs droits, pas leur avis.
Bonjour, je m'appelle Amélie et j'ai pris la pilule du lendemain parce que j'ai été violée.
Pour toi, c'était important d'être là
Parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire de beaucoup de femmes.
Tout est à nous,
tout est à nous,
rien n'est à eux,
rien n'est à eux.
Nos corps, nos vies nous appartiennent,
nous appartiennent.
PMA pour tous et libre avortement, ou alors ça va péter,
ça va péter.
Moi je m'appelle Lina, je fais partie depuis peu des couleurs colleuses de Grenoble. Donc c'est un peu un combat qui rejoint le combat pour la PMA pour toutes, l'IVG, etc. et contre la manif pour tous.
Moi c'est Clem, je fais aussi partie des couleurs colleuses de Grenoble. Et on se bat pour défendre les droits des personnes homosexuelles d'avoir une famille et que voilà, du coup c'est pour ça qu'on manifeste.
Je vois que tu as un drapeau arc-en-ciel autour de toi. Pourquoi c'était important de l'avoir aujourd'hui ?
Bah parce que comme on a dit, là la manif pour tous, ils manifestent surtout contre les personnes LGBT. Moi je trouve ça important de le revendiquer, qu'on se considère comme homosexuel, trans ou peu importe de la communauté ou pas, les alliés ou les personnes qui en font partie, c'est super important. Et si on fait pas entendre nos voix, eux ils se font entendre plus fort. Alors vaut mieux mettre de la couleur dans les rues et des drapeaux arc-en-ciel que des panneaux anti-PMA.
Mon cœur, mon choix, et ferme ta gueule.
Je m'appelle Siem, je fais anciennement partie de l'UNL, je suis lycéenne. Je trouve que c'est inadmissible encore aujourd'hui qu'il y ait des gens qui pensent que y a des gens qui n'ont pas le droit d'être ensemble. Et donc je viens lutter pour qu'on puisse être tous égaux et que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut. Et que ça fait partie de la vie privée et que ça ne concerne pas le reste de la population.
Laissez-nous faire ce qu'on veut, bordel!
Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut.
Le monde, la tous.
Sophie, je suis là en tant que féministe, surtout pour l'égalité des droits pour toutes et pour tous. Et surtout face aux fachos, cato, ça m'est insupportable. Qu'on soit toujours encore au Moyen-Âge, par rapport à l'IVG, par rapport à la PMA, pour toutes et pour tous. Je fais partie d'SOS Homophobie, qui est une association aussi féministe pour l'égalité des droits pour toutes et pour tous. Et on est vraiment sur les combats par rapport à la PMA, par rapport aux féministes, aux droits des femmes, qui est encore une fois mise en danger. Et je suis super heureuse en tout cas de voir que la manif, elle est quand même jeune. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Maintenant que les jeunes prennent les combats, parce que c'est pas fini, quoi. C'est vraiment pas fini. C'est pour ça que je dis aux jeunes, mais allez-y, criez, insultez, un petit peu. Voilà, et surtout, battez-vous, parce que les droits des femmes, c'est toujours sur elles qu'on tape, hein, en premier, et les minorités aussi, quoi.
Bonjour, je vais pas donner mon prénom, mais c'était une manif de 2 heures, c'est assez court quand même. Et on n'a pas pu aller sur la place, évidemment. Il y avait des gens qui auraient voulu, mais bien évidemment. Pour 15 faf, on mobilise 80 CRS. Là, on est dans une rue piétonne, il y a des gens en train de boire des bubble tea qui se sont fait gazer et qui pleurent. Et mon slogan préféré, c'est... Mais qu'est-ce qu'on veut ? La PMA ! Et pour faire quoi ? Pour avorter !
Oui,
alors, on me dit
on est à peu près 1000. Bah voilà, il y aura d'autres rendez-vous. Il y aura la manif contre les violences faites aux femmes en novembre. Il y aura le 8 mars, mais c'est aussi en été, là, dans la rue, là où on ne nous attend pas, les jours où on ne nous attend pas. Mais eux, où ils croient qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent et vouloir contrôler nos corps, c'est en étant là aussi dans ces moments-là, en étant là tous les jours sur le terrain, qu'on montre notre force, qu'on fait avancer nos droits, qu'on fait avancer nos choix.
Viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en pur. Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr.
Voilà qui vous donne un aperçu de cette contre-manif du 10 octobre 2020 face au rassemblement de la Manif pour tous. Dans ce montage, vous avez entendu des bouts de la chanson « Amour sans censure » de Hoshi. C'est peut-être pas le morceau le plus radical qui soit, mais moi quand je l'entends à la radio, je suis émue à chaque fois. Et je me dis que j'aurais bien aimé grandir en entendant ça. Et je vous laisse avec un morceau qui s'adresse directement à toutes les personnes qui se reconnaissent dans la Manif pour tous. C'est « Tire la chasse » de Guy Edré.
Quand je te regarde, je me demande parfois si t'es habitué au goût qu'elle a. Toute cette flopée de merde qui sort de ta bouche. T'as pas envie parfois de mettre ton visage dans une couche. C'est étonnant, t'as jamais l'air dégoûté de voir des flots d'excréments jaillir quand tu te mets à parler. On pourrait croire que l'odeur t'importunerait. Et pourtant, jamais, jamais, tu ne te tais. Il faudrait penser à tirer la chasse quand t'as fini de parler. Tu sais, à force, ça laisse des traces. Ce serait sympa de nettoyer.
Le 8 mars, journée internationale des luttes pour les droits des femmes et des minorisés de genre.
Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, ça te fait le château et pas tout, guili guili.
D'où ça vient ? L'idée d'une journée internationale des droits des femmes est née en août 1910 à la deuxième conférence des femmes socialistes de Copenhague. Le but est de mobiliser les femmes en accord avec les organisations politiques ouvrières et de défendre la nécessité de l'indépendance économique des femmes. Il s'agit en priorité d'obtenir le droit de vote alors que la répression contre les suffragettes se fait plus intense. La date du 8 mars est établie en 1917 avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. Elle est réinvestie par les féministes des années 70 et est officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977 par la France en 1982. Depuis 2016, le 8 mars devient à nouveau le rendez-vous de grandes mobilisations, notamment avec le mouvement massif de grèves féministes qui ont lieu dès 2016 en Argentine, en Espagne, en Belgique, etc. Aujourd'hui, les femmes dans le monde représentent 90% du personnel de caisse des magasins de ravitaillement, 70% du personnel médical et de soutien et 67% du personnel d'entretien d'après l'OCDE. Nous sommes une masse conséquente de travailleuses précaires et subissons au travail des violences sexistes et sexuelles liées à notre genre, comme des violences économiques, salaires plus bas, temps partiel, etc. Pendant le confinement, beaucoup de femmes ont renoncé à leur activité professionnelle face à la multiplication des tâches dédiées au foyer, car leur revenu est le plus bas des deux partenaires. Les femmes et minorisées de genre qui perçoivent l'allocation adulte handicapée, AAH, la perdent une fois qu'elles se déclarent en couple avec une personne percevant plus d'un certain montant de salaire. Cela nous met en situation de dépendance. Dans le cadre de violences conjugales, la possibilité de s'en sortir devient extrêmement compliquée. Tout le travail invisible et ou dévalorisé, assumé à majorité écrasante par les femmes est nécessaire au fonctionnement de notre système de société patriarcale. sa naturalisation, c'est-à-dire la croyance culturelle selon laquelle les femmes seraient destinées naturellement aux tâches domestiques et aux soins des autres, permet de rendre normale une situation de surexploitation injuste et violente qui est au cœur du système de fonctionnement capitaliste. Se mettre en grève ensemble, c'est dire stop à l'exploitation, stop à la violence. Se mettre en grève, c'est mettre en évidence l'importance de notre place dans la société tout en brandissant nos revendications pour celles qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. C'est créer une solidarité féministe et revendiquer ensemble notre droit fondamental à une existence digne et indépendante, une existence qui soit choisie. À Grenoble, l'Assemblée féministe qui regroupe les femmes mandatées par différents syndicats, associations, partis politiques, des collectifs féministes ainsi que des individus, est une assemblée féministe publique. Nous organisons cette année la grève du 8 mars ensemble. Et du coup, il y a rendez-vous lundi à 14h devant le musée de Grenoble pour partir en manif. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez en retrouver sur le Facebook @8marsgrèveféministe38 ou alors par mail, vous pouvez aussi envoyer un mail à grèvedu8mars@anche.no. Du coup, grève du 8 mars tout attaché @anche.no.
Qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. Faut la laisser faire, elle est ma vie. Akita bi à la vie, oui. C'est papa qui donne, on dit merci.
Et on aura malheureusement à peine le temps de dire merci. On a dû couper les chansons, mais en tout cas, c'est bien cette dernière. Bref, nous a lancé sur l'agenda avec un premier rendez-vous, bien sûr, qui est la grève et la manifestation du 8 mars prochain. Lycéens et lycéennes étudiantes qui étaient avec nous, vous aviez aussi quelques points à rajouter à l'agenda. Je vous donne la parole.
Oui, alors, Mickaël. Pour les étudiants, il y a deux dates aussi à rajouter. Il y a du coup. Le 12 mars, il faut savoir que le préfet de Grenoble visite la résidence Berlioz. Précisément le numéro, on ne le connaît pas, mais du coup, si jamais il y a des gens qui veulent interpeller le préfet sur la situation, n'hésitez pas à venir. Voilà. Et Gabriel, si tu veux rajouter.
Et donc le 16, il y a une marche des étudiants qui aura lieu, dont le départ partira de la maison des étudiants à Chavans, si je me trompe pas, et l'heure je ne sais plus, mais c'est pas grave.
Voilà, 14h30, j'ai entendu 14h30, mais de toute façon on peut se tenir au courant.
Voilà, bref, on mettra toutes les infos sur notre Facebook de toute façon, n'hésitez pas à scruter. Et voilà, vive le syndicalisme, rejoignez-nous et créons une culture de résistance.
Est-ce qu'il y a des jours de permanence pour Solidaire étudiant?
Oui, alors il faut savoir qu'en ce moment, vu le contexte, on tient des réunions de section tous les mardis à partir de 18h sur Discord. Mais bien sûr, si vous voulez venir nous voir, vous pouvez. Hein, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Vous pouvez partir quand vous voulez, vous pouvez venir quand vous voulez. Donc du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés, le plus rapide, c'est de nous contacter sur notre Facebook Solidaire étudiant Grenoble pour nous se présenter et nous dire que on voudrait participer à la réunion. Voilà, il n'y a pas de problème.
Malo, Clémence, les prochains rendez-vous lycéens.
Rapidement les prochains rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous le 16 devant le lycée des Eaux Claires pour protester contre les coupes budgétaires. Et un autre qui va être donc un grand appel qui sera sur la marche pour le climat de la jeunesse, donc le vendredi 19.
Et on termine avec les autres rendez-vous. Yvon, à toi la parole.
Oui, bien, écoute, il n'est pas trop tard là pour rejoindre les manifs qui est en train de partir de l'abbaye. Ce sont des squatteurs, ce sont des migrants, ce sont des SDF ou des mal logés qui viennent réclamer depuis plus de 2 mois déjà qu'on leur rétablisse les fluides, c'est-à-dire le chauffage, l'eau, l'électricité, parce qu'à peine arrivé, le bailleur Actis a coupé ses fluides, c'est ce qui est complètement scandaleux. Et donc ils ont rendez-vous, la manif se donne rendez-vous devant la mairie, et où il y aura une conférence de presse aujourd'hui même à 15h. C'est aussi l'anniversaire des 10 ans de la catastrophe de Tchernobyl, et sortir du nucléaire, De Tchernobyl. Tu as raison, de Fukushima. Oui, excuse-moi. Ça fait beaucoup plus de temps, mais c'était quand même le même problème. Et donc, sortir du nucléaire propose une manifestation ou un rassemblement qui aura lieu le 13 mars à 10h sur le rond-point à l'entrée nord-ouest de Bourgoin. Et c'est essentiellement pour un budget, oui, sans nucléaire. Il y a là-bas 4 réacteurs qui ont 40 ans d'âge. 40 ans, c'était la durée prévue par ceux qui l'ont conçu. Hein, pour que, après, plus ça vieillit, plus les risques sont importants. Et l'Agence de sûreté nucléaire semble prête, et EDF aussi, à revoir les exigences de sécurité à la baisse pour prolonger la durée de vie. Donc il y a sûrement quelque chose à faire pour protester contre ce laxisme. Il y a aussi un rassemblement et une manif pour les transports gratuits, une de plus, et aussi la défense des services publics. Ce sera devant la métro le 12 mars à midi. Je crois que c'est tout, voilà.
Et de toute façon, on se retrouve samedi prochain pour les rendez-vous qui suivront le reste de l'agenda. Ça fait déjà un petit agenda un peu chargé pour la semaine. Et ben merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. C'était super de vous accueillir.
Merci à vous.
Merci à vous.
Puis, à bientôt. Pour nos auditeurs, on se retrouve samedi prochain à 13h. Et ce sera justement pour suivre en direct la manifestation du coup sur les questions de droit au logement et la remise de la pétition à Éric Piolle. À bientôt et donc bonne écoute à l'écoute de Radio Campus Grenoble 90.8 FM.